Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler donc de fertilisation localisée des céréales à la paille. Donc comme vous le voyez, c'est un topo que j'ai préparé donc avec mon collègue Jean-Pierre Cohen. Donc avant d'entamer donc dans le vif du sujet directement et avec les résultats d'essai, donc juste poser des questions sur le pourquoi on essaye de localiser les engrais au semis. Donc effectivement, bien faire la différence entre les deux grands types de modes de transport. Donc des différents éléments donc, que peuvent être donc, soit la diffusion, soit la convection, donc, qui vont concerner des transports de distances plus ou moins importantes. Donc où on va voir notamment pour les éléments de type nitrate ou sulfate, donc du transport qui va se faire sur des distances, on va dire, de l'ordre du centimètre. A contrario, donc des choses qui sont beaucoup plus anecdotiques et beaucoup plus faibles, notamment donc par rapport à la diffusion, la diffusion en question, donc sur tout ce qui est éléments de type phosphore ou potasse. Donc effectivement, bien retenir par rapport à l'aspect de localisation qu'en fait on a deux objectifs totalement différents selon les types d'engrais qui vont être regardés et étudiés, et où pour le phosphore et la potasse, l'objectif prioritaire, c'est une mise à disposition, on va dire, très proche par rapport aux racines. Et à contrario, donc par rapport à l'azote, qui lui est beaucoup plus mobile, là, on va plutôt chercher à avoir une réduction des pertes, donc par l'action de l'enfouissement proprement dit. Donc si on traduit ça sur un tableau où, en gros, on montre en abscisse, vous avez donc la mobilité des éléments minéraux, et en ordonnée, vous avez donc la densité du système racinaire. Donc on peut envisager plusieurs cas types, par exemple ici le cas numéro 1, où là on est sur une mobilité très faible, une densité qui elle va être relativement faible, c'est-à-dire des interrands larges. Donc là typiquement on va être sur un cas de figure qui va être très intéressant, de par donc une faible mobilité de l'élément et des interrands qui sont donc relativement élevés, donc une faible densité du système racinaire. Et là typiquement je dirais on est sur ce qu'on connaît parfaitement, c'est-à-dire en gros phosphore sur maïs par exemple. Donc si on combine ou si on regarde d'autres cas de figure, je vais aller un peu plus rapidement, cette fois-ci donc on est toujours sur des éléments à faible mobilité, et éventuellement phosphore, des interrands par contre qui sont beaucoup plus resserrés, donc une densité racinaire qui est plus importante, avec cette fois-ci, bon, ça fera l'objet notamment de certaines expérimentations que je vais présenter après, effectivement, des situations où on se pose un peu des questions sur l'intérêt plus ou moins direct de ce type de localisation. Et donc un troisième cas de figure, là, pour terminer, où là, par différence, donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus mobile, typiquement l'azote, avec une densité racinaire qui est relativement importante, en gros céréales, et où effectivement, on a un intérêt relatif de la localisation qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas du tout sur l'aspect d'un placement préférentiel par rapport aux racines, mais plutôt sur l'action d'enfouissement. Donc je vais vous présenter rapidement les grands modes de localisation qui sont aujourd'hui présents chez les constructeurs de semoirs céréales. Alors je précise que ce dont je parle, ce sont notamment les solutions entre guillemets vendues clé en main, c'est-à-dire ce qui est proposé par le constructeur. Je ne parle pas du tout de tout ce qui peut être ajout ou modification par de la monte de seconde main ou ainsi de suite. Donc le grand classique, je dirais, en termes de localisation d'engrais, c'est ce qu'on appelle donc l'engrais et la semence qui sont mélangés dans le même sillon. Donc globalement, engrais et semences qui sont en mélange. Pourquoi c'est le grand classique? Parce que c'est pas cher en termes de solutions techniques. On a juste une trémie qui va être compartimentée en deux, et puis on a différents systèmes qui vont faire que, en gros, le tuyau qui achemine la semence et le tuyau qui achemine l'engrais vont venir au final dans un même élément semeur, donc pour avoir donc un positionnement donc d'engrais et de semences qui vont se faire dans le même sillon. Ce qui veut dire effectivement qu'on va avoir des phénomènes de contact direct dans ce cas de figure-là. Donc un autre aussi type de localisation qu'on reverra par la suite, où donc là ça consiste en fait sur des semoirs de type semi-simplifié à disque. Donc vous voyez, j'ai fait des flèches de différentes couleurs entre la semence qui est jaune et l'engrais qui est bleu. Donc en fait le principe c'est qu'on ajoute une ligne supplémentaire donc qui va permettre de positionner l'engrais. Donc c'est le disque qu'on a au premier plan, et en fait cette ligne-là, elle va travailler pile entre deux rangs de semis. Donc on a un système qui notamment va se distinguer par une absence de contact total, donc engrais-semence, mais qui, à contrario, va notamment être aussi relativement onéreuse de par l'ajout de pièces travaillantes qui y sont spécifiques. Un troisième type également sur lequel on a aussi travaillé, donc, qui consiste en fait à positionner donc, l'engrais juste au-dessus de la ligne de semis, qui pour le moment est uniquement, je dirais, proposée par un seul constructeur français en l'occurrence, et où en fait donc, l'engrais vient être positionné, vous voyez sur la photo, là, sur la partie légèrement en retrait, donc juste avant la fermeture du sillon, qui, je dirais, de façon purement pratico-pratique, n'a pas de contact direct engrais-semence, mais qui, bien évidemment, compte tenu des profondeurs de semis de céréales, notamment, font qu'on a quand même une proximité des deux éléments qui est quand même relativement faible. Enfin, proximité qui est quand même assez importante. Bon, puis ensuite, deux autres modes de placement que je détaille pas beaucoup. Donc, où la première, côté gauche, là, qui ressemble un petit peu à ce qui se fait sur le maïs. Donc, où en gros, on met à côté, en dessous, sur les semoirs céréales, concerne principalement des outils de type semi-direct à dents. Donc, qui sont essentiellement des systèmes d'origine nord-américaine et qui se distinguent notamment par des interrands qui sont relativement élevés, de l'ordre de 25 à 30 cm. Donc, qui fait que cette fois-ci, ben, on positionne effectivement l'engrais juste à côté, compte tenu des écartements qui sont assez larges. Et puis, donc, un dernier principe qui, je dirais, est un petit peu en développement, notamment depuis 2 ans, lors d'un dernier salon du machinisme, qui, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure sur le semoir rouge et noir, la Waderstad, en fait, cette fois-ci, on n'a pas de pièces supplémentaires qui sont rajoutées. On utilise les pièces existantes et donc on fait une localisation qui, en gros, va être, je dirais, dans le lit de semences, légèrement en retrait, et donc qui va notamment se permettre d'avoir des coûts pour l'agriculteur qui sont un petit peu moins onéreux. Donc là, je vous présente, on continue dans l'orge de printemps, une synthèse de 6 essais donc, qui ont été réalisés donc, entre 1996 et 2012 donc, au niveau d'Arvalis, donc réalisés sur orge de printemps. Donc on est sur des sols de type argilo-calcaire ou des limons argileux. Et globalement, on oscille en grosse majorité donc, sur le secteur du Loiret, donc Boigneville, ou également donc, en Meurthe-et-Moselle. Donc vous avez dans un premier temps donc, un graphe donc, qui représente donc, la confrontation des rendements donc, entre la technique localisée donc, qui est en ordonnée et la technique donc, d'apport en surface. Donc vous avez donc, la bisectrice donc, qui représente un rendement équivalent. Donc vous voyez effectivement qu'on a un très léger déplacement des points, je dirais, en partie relativement supérieure du graphe. Donc ce qui signifie un rendement qui est légèrement supérieur donc pour la technique localisée comparativement à la technique d'apport en surface. Alors ce que je précise par rapport à ces essais-là, en grande majorité, ils ont été réalisés sous forme d'apport unique. Donc c'est-à-dire qu'on a tout l'engrais qui est apporté au semis, que ce soit en localisé ou en surface. Et on reverra après, en fait, c'était réalisé sous la forme de courbe de réponse à l'azote. Donc là, on voit effectivement un delta de rendement pas très important, mais qui est de l'ordre de 3 quintaux, à peu près, hein, de façon pluriannuelle, tout essai confondu. Et ainsi qu'un taux de protéines, hein, bon, on est également sous orge de printemps, donc l'aspect qualité est important, qui lui est insignifiant, à 0,03%, donc globalement des choses qui sont très proches l'une par rapport à l'autre. Alors si on regarde ici donc, sur les différents essais qui ont été concernés, donc, qui étaient, comme je le rappelle, donc, des courbes de réponse, en fait, les doses d'azote et les rendements optimaux ainsi que le CAU, ben, on voit effectivement qu'on a des choses qui vont être relativement proches de l'origine, donc avec des essais où les réponses sont très faibles, et qui, à contrario, vont tirer beaucoup plus vers les extrémités dans certaines situations, donc où là on a eu des réponses beaucoup plus importantes. Vous avez un point, par exemple, sur un essai en 96 avec une différence de rendement de 10 quintaux donc entre le localisé et la surface, ou à contrario, une différence d'azote optimale de l'ordre de 120 unités, donc pour également un autre type d'essai. Donc ça se traduit aussi en termes de CAU, donc par là aussi, en gros, donc des points donc, qui vont osciller au niveau de la bisectrice, et puis donc quelques-uns qui vont se situer en partie supérieure, donc qui permettent effectivement qui se traduisent par un CAU plus intéressant donc sur l'apport en localisé par rapport à l'apport en surface. Donc globalement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on retire ? Deux grands types de situations. Donc des situations où en gros on ne voit pas de différence entre l'engrais localisé et l'engrais en surface. Ça va concerner globalement les années, je dirais, où on a des conditions d'efficacité, notamment pour l'apport en surface qui sont plutôt bonnes. Donc très clairement, des années plutôt, on va dire, humides et pluvieuses, hein, comme on a pu l'avoir cette année, par exemple. Et à contrario, on va avoir des cas de figure où on a une différence qui va plutôt être en faveur de la localisation, où cette fois-ci, on va effectivement plutôt être dans des cas de figure où on va avoir donc un manque ou une dynamique de croissance de l'orge de printemps qui est entamée donc, par rapport à des efficacités d'apport en surface qui vont être limitantes. Donc on est effectivement bien, je dirais, un distinguo relativement important par rapport à ces deux grands types météo. Donc je parlais d'intérêt, je parlais également de limite de la localisation. Ici un petit graphe donc, qui vous représente certains stades clés ou certaines composantes de rendement donc, par rapport à de l'orge de printemps ou à des céréales de façon générale. Simplement, effectivement, pour signaler que tout ce qui va se poser en termes de problèmes par rapport aux aspects de localisation, ce sont essentiellement donc de phénomènes qui vont intervenir très très rapidement dès la germination et dès la levée de la culture, qui sont principalement de deux types. Le premier, c'est tout ce qui va concerner la toxicité ammoniacale. Et donc le deuxième type, c'est tout ce qui va concerner les problèmes de pression osmotique de la solution du sol, donc via les indices de salinité des engrais. Donc par rapport à ça, on a, je dirais, au niveau bibliographique, on peut voir donc plusieurs facteurs d'importance. Alors effectivement, ce qui nous vient tout de suite en tête, c'est l'aspect de mode de placement de l'engrais. Alors c'est effectivement un facteur de risque, il y en a tout un tas d'autres, hein, je roule rapidement. Donc effectivement, le type d'engrais peut être important, notamment de par sa teneur en ammoniac, de par son indice de salinité. La dose, bien évidemment, va être importante. Le type de sol va également jouer, de par les aspects humidité ou SMI ou CEC, donc teneur en argile. Et puis, il ne faut effectivement pas oublier tout ce qui va être, je dirais, phénomène de compensation, puisque, effectivement, selon l'année en question, je dirais, des problèmes de brûlure donnés sur une année donnée peuvent effectivement être compensés, de façon plus ou moins importante via tous les phénomènes de tallage ou autres, fertilité épi ou PMG, donc dans le cas des céréales. Donc ici, un essai qu'on a réalisé en 2012 donc sur orge de printemps donc dans le Loiret, où on a essayé de regarder donc, et d'appréhender un petit peu mieux ces problématiques de toxicité, où donc en gros on a été prendre trois engrais, classiques du marché, donc ammonitrate, urée et DAP, et où on a regardé deux types de localisation et puis des apports en surface. Donc on a regardé à dose identique de l'engrais en surface, la même dose pour de l'engrais localisé avec la méthode Sulky. Donc pour ceux qui ne se souviennent plus, en fait c'est l'engrais qui est positionné juste au-dessus de la semence, et puis également donc, de l'engrais qui va être en contact avec la semence, donc qui va être potentiellement plutôt la méthode, je dirais, la plus délicate. Donc qu'est-ce qu'on voit donc deux types d'informations. Donc ce que vous avez en haut, donc, c'est les données sur la levée des cultures. Ce que vous avez en bas, c'est les données qui concernent le rendement des cultures. Donc vous avez pour chaque graphe, en abscisse, donc les doses d'azote, et puis donc soit les nombres de pieds mètres carrés levés, soit les rendements. Donc vous voyez que globalement, notamment par rapport à l'aspect ammonitrate, également aussi un peu par rapport à l'aspect urée, alors ce que je n'ai pas précisé, effectivement, c'est ce qui est en vert, globalement, ça concerne donc les apports de surface. Et ce qu'on a en bleu ou en rouge, ça va concerner donc les apports localisés, qui sont en rouge donc pour le principe Sulky, et puis en bleu pour ce qui est en contact. Donc globalement, on voit effectivement ammonitrate, dose relativement importante, on a quelques pertes en termes de levée qui ne sont pas très importantes, hein, de l'ordre de 25 à 30 pieds mètres carrés. On a à peu près, je dirais, le même type de phénomène sur des engrais de type DAP, et où derrière, par rapport à l'aspect rendement, on voit des choses qui sont, qui s'effacent totalement, hein, de par notamment ce que je disais tout à l'heure par rapport aux aspects de compensation, et qui, statistiquement parlant, sont totalement équivalents. Par contre, là, on a des choses qui sont quand même totalement différentes. C'est notamment des localisations d'engrais. Alors, c'est sur des doses équivalentes. Hein. Vous voyez, on a différentes doses qui sont apportées. Par exemple, sur l'urée, là, vous avez un premier point qui a 50 kg d'urée par hectare. 50 kg d'azote sous forme urée. Et un second qui a 200 kg d'azote. Et où là, très clairement, vous voyez qu'on a des pertes à la levée qui sont énormes. où en gros on perd la moitié de la population levée, et où derrière, bien effectivement, même si on est sur des phénomènes de compensation, bah, on a quand même très clairement des pertes de rendement qui sont significatives. Alors, je dirais pas très importantes au vu des pertes à la levée, mais qui sont effectivement là quand même. Alors, ce qu'on voit effectivement par rapport à ça, donc comme je disais tout à l'heure, AMO est en gros ammonitrate DAP, donc un léger effet sur le nombre de plantes mètres carrés, et puis derrière des phénomènes de compensation qui en gros font qu'on n'a aucune différence de rendement. A contrario, donc par rapport à l'urée, des effets très importants sur le nombre de pieds levés par mètre carré, une compensation après mais qui est partielle et qui donc ne permet pas de récupérer le rendement de la modalité apport en surface. Donc là, on a effectivement bien un effet dose et forme d'engrais qui est prépondérante sur le mode de placement. Donc là, je vais parler de tout ce qui était partie azote, ce qu'on avait en termes de résultats. On a effectivement aussi quelques données d'essais sur localisation de phosphore, sur blé en l'occurrence. Donc là, c'est un essai qui a été réalisé en 1996. Donc dans le Tarn, hein, Montans, sur des sols limoneux qui sont globalement peu pourvus, hein, aux alentours de 20 ppm de phosphore Olsen, et où donc différentes techniques ont été regardées, donc soit un apport avant labour, soit un apport qui a été localisé au semis, système de semis Vaderstad, ou éventuellement un apport qui a été fait donc sorti hiver aux alentours de mi-janvier à 4 feuilles. Donc l'idée effectivement là, c'est de bien distinguer l'aspect de la date d'apport par rapport à l'aspect de, je dirais, une localisation plus ou moins importante par rapport à l'aspect racinaire. Donc on voit effectivement bien les courbes bleues et noires qui sont très très proches les unes des autres, non statistiquement différentes, et qui se démarquent assez fortement, je dirais, de ce qui était réalisé donc couleur rouge, c'est-à-dire de l'apport sorti vert. Ou donc là, effectivement, on est comme, si on refait un peu le point par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc sur une culture qui est globalement peu exigeante, un système racinaire performant, des interrangs étroits, et où, a priori, effectivement, on a un intérêt à la localisation qui est relativement faible par rapport à des aspects d'apport au semis en surface, c'est-à-dire qu'on a effectivement plutôt un aspect date d'apport qui est important, plus qu'un aspect de localisation proprement dite. Donc d'autres essais aussi qui ont été réalisés l'an dernier, cette fois-ci on n'est plus sur du blé tendre, on est sur du blé dur dans le Loiret, où là on est sur un sol qui est un petit peu plus riche, hein, qui est en simplifié depuis plusieurs années, où on a 70 ppm en surface et l'ordre de 30 en gros dans la partie non travaillée, et où donc on a regardé également donc du phosphore mis juste avant le semis, du phosphore localisé au semis avec le système Sulky et du phosphore mis en plein, donc à la sortie hiver, avec, comme on le voit ici, effectivement, hein, attention à l'échelle, hein, on est sur de l'échelle automatique Excel, une échelle qui est très très fine, donc on n'a aucune différence statistique significative, hein, en termes de rendement, donc par rapport à ces aspects donc de date d'apport ou de localisation des apports de phosphore donc sur la culture de blé dur. Alors donc là, j'ai parlé plutôt du volet technique. Je vais faire rapide pour parler de l'aspect plutôt économique. Donc effectivement, la question, c'est en gros, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le surcoût peut être rentabilisé? Et si oui, sous quelles conditions? Donc, comme je le disais tout à l'heure, bon, les réponses en rendement, et on l'a vu, sont pas systématiques. On a des réponses qui peuvent être intéressantes en année relativement sèche. On a globalement des rendements qui vont être très proches, voire identiques, en année plutôt humide. Donc on aura du mal à dire j'achète le semoir quand il fait sec et je le laisse de côté quand c'est humide. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième autre point, c'est que faut quand même avoir en tête que l'option en gros de fertilisation localisée, c'est quand même un surcoût qui est relativement important, qui selon les constructeurs, les largeurs et les technologies en termes de placement d'engrais va osciller entre en gros 5 à 8 jusqu'à 20-25%. En termes de surcoût d'achat de la machine, donc c'est quand même un point important. Et puis c'est vrai également que des cultures sur lesquelles on peut, rentabiliser ce type d'investissement en termes de surface, elles sont quand même pas très très importantes. Ça va concerner essentiellement donc l'orge de printemps sur lesquelles on a des réponses qu'on l'a vu sont quelquefois intéressantes, quelquefois neutres. Donc on a effectivement ce point-là de surface qui pour amortir, pas très important. Donc on a une approche ici d'amortissement technique où en faisant une définition donc, d'un couple tracteur-outil, donc on va essayer de regarder les coûts d'utilisation pour des différentes fermes types. Alors je fais rapide. En gros, voilà, vous avez ici la courbe qui représente donc le coût d'utilisation du matériel en fonction de la surface. Bien évidemment, plus on va déployer de surface sur un matériel donné, plus le coût ramené à l'unité de surface va être faible. Ce que vous voyez en bleu, en gros, c'est le coût d'utilisation du système localisé. En rouge, donc, c'est en gros la même machine avec le système classique. Bien évidemment, le surcoût d'achat va se traduire derrière par un coût d'utilisation un petit peu plus important. Donc, quelques cas types que j'ai fait donc, sur des fermes. Donc là, on a défini donc, des surfaces données, une surface de culture de printemps sur laquelle on va essayer donc, sur laquelle on va amortir de façon ciblée l'investissement, un surcoût d'achat du matériel, un débit de chantier, enfin j'en passe rapidement. Vous voyez globalement dans cette hypothèse-là, donc, on a donc, un surcoût qui est lié donc, à la technique de localisation au SMI, qui est de l'ordre de, en gros, de 6 à 9 euros, sur lequel, donc, effectivement, si on apporte une partie ou la totalité donc, de l'engrais, donc, on va en gros économiser donc, un épandage en plein, donc l'on va retirer, donc, sur lequel on va arriver au final sur un surcoût total, donc, dans ce cas-là, de l'ordre de 3 à 6 euros environ. Donc j'ai fait un autre cas type là sur quelque chose d'un petit peu moins, enfin un petit peu plus extrême, où j'ai pris volontairement un système qui est beaucoup plus important en termes de surface, qui est également beaucoup plus important en termes de surcoût par rapport à la machine, donc avec des débits de chantier et ainsi de suite. Bon, j'en passe rapidement. Voilà, vous voyez qu'on a des surcoûts globaux au final qui sont de l'ordre de 7, en gros, de 7 à 10 euros de l'hectare approximativement, donc du système de localisation donc par rapport à des systèmes d'apport classiques. Donc je termine rapidement. Donc en guise de conclusion, donc en termes d'acquis, donc on a vu notamment qu'on avait des intérêts en termes de localisation d'azote sur orge de printemps au niveau des années difficiles, qui s'expliquent notamment par des conditions de valorisation de l'azote en surface qui sont délicates. Ça, c'est le premier point. Intérêt de la localisation du phosphore sur céréales, donc on voit que c'est plutôt délicat et notamment délicat par rapport à la date d'apport. Comme je le disais, on a plutôt des effets date que des effets proprement dits de localisation. Un autre point important, c'est qu'on a, je dirais, même si les machines sont relativement importantes au départ, au final, on voit qu'en termes de coûts d'utilisation, on a des surcoûts qui sont quand même relativement modérés et qui, notamment aujourd'hui, je dirais, arrivent entre guillemets à passer, puisqu'on a différents types d'utilisation de ces matériels-là, notamment par rapport à tout ce qui va concerner des semis, par exemple, de mélange de couverts végétaux, de colza associés, de métail, voilà, tout un tas d'utilisations, nouvelles, qui vont permettre effectivement d'utiliser ces machines-là qui ont deux trémies. Donc les travaux, bien évidemment, ne sont pas terminés. On continue à travailler le sujet et on a encore pas mal de choses à faire. Donc dans les points, je dirais qu'on a ciblé, c'est notamment regarder de façon un peu plus ciblée les quantités maxi durées qui sont localisables compte tenu des pertes à la levée et de voir en gros pour différents grands types de sols jusqu'où on peut aller dans la limite du raisonnable. En gros, c'est pas perdre trop de pieds pour pas qu'on handicape le rendement. Donc c'est vrai qu'on a notamment à ce sujet-là commencé des nouvelles expérimentations en sol de craie. On est également intéressé, et ça je l'ai vu un peu par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la biblio, de tester des produits avec urée plus inhibiteur de l'uréase vis-à-vis notamment des aspects de toxicité donc, de l'urée comme on l'a vu tout à l'heure. Également, on est pas mal interrogé par des agriculteurs, alors même si quelquefois je dirais on est hors réglementation, mais on est effectivement interrogé sur les aspects de localiser du DAP sur des semis de céréales d'automne, donc dans des systèmes qui sont sans labour, voire semi-direct. Donc je dirais on fait au moins un minimum de veille là-dessus pour avoir quelques réponses le cas échéant. Et puis effectivement, je dirais de mon côté plutôt de la veille technique et technologique sur de nouveaux types de localisation, que ce soit au SMI ou pour d'autres opérations culturales. Donc je termine, donc je remercie effectivement tous les techniciens Arvalis et autres qui ont pu contribuer et participer à tous les essais qui sont quand même très lourds, les agriculteurs, les constructeurs pour les machines qui nous ont été prêtées, et puis je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci. Et alors, quelques minutes pour les questions. L'autre session n'a pas encore terminé. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller aux nouvelles. On doit se retrouver tous ensemble ici ensuite. Il y a une question là-bas, tout là-haut. Pendant que le micro arrive, vous avez parlé des céréales, mais les semoirs peuvent aussi être utilisés sur les colzas. Colza, phosphore.
Oui. Je dirais qu'on est un peu hors de notre champ de compétences, mais effectivement, c'est des sujets qui sont regardés par nos collègues du Cetium. Oui, tout à fait.
Donc, ce qui peut aussi permettre de rentabiliser le matériel sur d'autres cultures.
Oui. Je connais pas exactement les chiffres et les résultats et les pertinences de l'apport sur ces cultures et s'il y a vraiment des réponses systématiques, mais oui, tout à fait. Oui.
La question. Merci de vous présenter.
Allez, Michael de Cali-Rhodes. Ma question, c'était de savoir si vous prévoyez de faire des essais de ce type sur les graines fourragères, en particulier sur le phosphore.
Je n'ai pas bien compris, sur les...
Sur les semences, lorsqu'on sème des graines de fourragères type régrasse, luzerne, dactyle, fléole, ainsi de suite. Ça se fait déjà dans certaines régions.
Oui, je dirais effectivement, pourquoi pas, on a des stations qui travaillent de façon plus axée sur ces problématiques de fourrage. Je dirais, nous, on est plus dans le domaine d'action, orge de printemps ou céréales ou autres, mais oui, effectivement, c'est des choses qu'on pourrait très bien... On pourrait très bien effectivement envisager, oui.
Je posais cette question parce que souvent on me revient en me demandant ce que j'en pense. Bien sûr, je ne donne pas de réponse. Des essais effectués.
Après, je dirais, je vais la jouer facile. Je vais plutôt renvoyer vers les collègues des régions en question. Mais je dirais oui, à partir du moment où il y a des questions, si on juge que c'est des choses intéressantes et sur lesquelles on n'a pas de données et il nous en faut absolument, oui, effectivement, pourquoi pas, oui.
Merci.
D'autres questions? N'hésitez pas. Alors, deux questions de ce côté-là. Oui, Philippe Gérard, et puis après, il faudra monter tout en haut. Merci, Marc, de faire les kilomètres.
Désolé.
Oui, donc Philippe Gérard, UVSR. Une question plus concernant le maïs, qui a un écartement plus conséquent, qui est dans le domaine de compétences d'Arvalis.
Oui.
Est-ce que vous avez des éléments, je pense surtout au phosphore ou plus particulièrement le DAP, en particulier une année comme 2013.
Alors ça, je dirais que oui, c'est quand même un grand classique qui a été travaillé depuis très très longtemps, où effectivement l'aspect phosphore en plein versus phosphore localisé montre un petit plus. Je dirais un petit plus de l'ordre de 1/2 à 2 quintaux, et puis un très léger plus en termes d'humidité à la récolte. Et qui, je dirais, fait effectivement partie de nos préconisations générales, notamment dans les situations sol peu travaillé, un petit peu froid, ou éventuellement des problèmes plus spécifiques, alors qu'ils ne sont peut-être pas trop dans le nord-est, mais de parasitisme tellurique éventuellement. Mais oui, là, effectivement, je dirais, on est plus sur des pratiques quand même beaucoup plus classiques, effectivement, sur le maïs. Ouais.
Il y avait une question tout là-haut, oui. Là, devant, d'accord, oui. On vous oublie pas.
Jean Dormeil, Bordeaux Sciences Agro. Pour continuer sur le maïs, est-ce qu'on pourrait envisager des effets cumulatifs d'une année à l'autre en imaginant avec un GPS de mettre toujours dans la même ligne d'une année à l'autre l'engrais et les graines? Enfin, je pense que ça doit pouvoir se faire en théorie. Et
oui, techniquement, ça peut se faire sans aucun problème, c'est clair.
Alors, est-ce qu'il y a des essais là-dessus pour voir en cumulatif ce que ça peut donner?
Comme je disais, techniquement, je pense qu'il n'y a aucun souci, on est capable de le faire. On a tous les outils en termes de guidage plus ou moins précis pour le faire. Enfin, chez nous, c'est sûr qu'on n'a encore pas réalisé ça. Après, est-ce que ça a déjà été fait ailleurs? Là, je dirais, je botte en touche, je ne sais pas.
Voilà, et il te faut monter tout là-haut. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant ce temps-là que je puisse déjà les repérer? Non? Bon, alors ce sera peut-être la dernière. On reposera la question. Le micro arrive, de main en main.
Tout au bout.
Vous n'avez pas la meilleure position pour poser les questions.
Non. Bonjour, Erané Guilam, de AgroCampus Ouest. Je suis élève. Ça tombe bien que vous ayez parlé du maïs, les deux d'avant, parce que je ne sais pas si ma question est très pertinente dans le cas du blé. Mais en tout cas, le fait de localiser la fertilisation, est-ce que vous avez déjà observé des, des effets au niveau du développement racinaire. Puis bon, comme on sait, la plante est un peu feignante et donc va aller va porter ses racines plus au niveau là où sont localisées les ressources. Notamment au niveau de l'hydrotropisme, je sais que c'est avéré, mais après je ne sais pas au niveau des nutriments. Est-ce que vous avez observé quelque chose au niveau de ça?
Alors, je ne sais pas si on l'a mesuré exactement sur nos essais céréales. Jean-Pierre me fait un signe de tête, oui, non? En tout cas, moi, effectivement, alors je sors un petit peu du domaine de ce que je présentais là. On a des essais assez récents là, qui se font sur tout ce qui est, en l'occurrence sur maïs, donc strip-till, la localisation de la fertilisation, où effectivement, ça faisait partie des choses auxquelles on pensait, en disant, si on apporte de façon préférentielle l'engrais à une zone donnée, est-ce qu'on ne va pas quelque part un petit peu faire en sorte que le maïs soit encore plus feignant qu'il n'est? Et les quelques données qu'on a vues cet été, là, alors bon, c'est encore un peu chaud et je n'ai pas beaucoup pris du recul, mais effectivement, ça semble aller dans ce sens-là, oui, tout à fait. Ça semble aller dans ce sens-là. Et où, en gros, alors je parle pour du maïs, hein, je n'ai pas trop été vérifié en céréales, on n'a pas du tout les mêmes intérants, mais c'est vrai que c'est ce qui semble se passer, en tout cas pour la culture de maïs, oui.
À approfondir. D'autres questions ou une dernière question, un courageux?
Oui, moi je veux bien en poser une, j'en profite d'avoir le micro. Donc Marc Hervé, Eurochem. Deux remarques dans les courbes de réponse que vous mettez en fonction de la quantité d'azote amenée.
Oui.
De mémoire, on est à 0, 50 et 200. Les points sont reliés. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a une dose maximale à ne pas dépasser de manière localisée, et si la dose nécessaire pour la culture est supérieure à...
Alors c'est vrai, effectivement, que oui, on est effectivement là dans rapport aux situations expérimentales, bon, c'est toujours pareil, on veut faire plein de choses avec pas beaucoup de place, donc on va essayer d'un petit peu, je dirais, tendre les situations, et c'est vrai que oui, on a peut-être été un petit peu loin, mais volontairement, je dirais, pour mettre en évidence des phénomènes. Alors c'est sûr que oui, on aurait pu éventuellement penser à être plus fin. Et c'est effectivement ce que je disais en terminant par rapport aux aspects urés, en disant voilà, l'idée c'est d'être plus fin et d'arriver à avoir en gros pour des grands types de sols, entre guillemets, je dirais des valeurs seuil à pas trop dépasser pour que bon, les agriculteurs ne mettent pas trop en péril évidemment leur culture.
Oui, ce qu'on trouve hein, de mémoire aux États-Unis qui pratiquent beaucoup comme ça, des fertilisations localisées au contact de la semence, on trouve des tableaux assez complexes en fonction de la CEC, des types de sols avec des doses à ne pas dépasser. Et dernière question sur les essais purement phosphore. Quel est le type de phosphore que vous avez utilisé?
Alors, je vais y répondre pour celui qu'on a fait en 2013. Donc, c'est classique, hein, du TSP. Hein. Après, pour celui de 96, je ne sais pas trop. Si Jean-Pierre peut me donner un coup de main, ça me... je pense que c'est à peu près le même genre.
Pour les surblés en 96, c'était du TSP aussi. Oui. Et puis donc en 2013, c'était du TSP. Et on a aussi regardé quelques modalités de DAP. Parce qu'on avait le droit, on a été en expérimentation. Et puis maintenant, on a le droit. La directive nitratelle a dit oui. Donc on a regardé les deux, mais l'essentiel de nos références sont quand même en superphosphate.
Merci.
Bien. L'heure avance et je vais clore cette session en remerciant à nouveau notre dernier intervenant. Voilà, merci Damien.